sur les typhoïdes afin d'informer la hiérarchie sanitaire pour prendre les mesures qui s'imposent s'il y a une épidémie qui peut se déclarer.
Ça, c'est le premier aspect. Et quel est le deuxième volet du traitement préventif?
Le deuxième aspect, c'est la lutte contre les périls fécales. Je vous ai dit tantôt que la fièvre typhoïde était une maladie de mains sales qui provenait de ce que nous mangeons ou ce que nous buvons. Donc, le deuxième aspect de notre prévention, c'est la lutte contre les périls fécales, contre tout ce que nous mangeons, nous buvons, et donc le respect strict des règles d'hygiène en ce qui concerne l'hygiène alimentaire. Troisième aspect de la prévention, c'est la vaccination.
Effectivement, il y a un auditeur qui a demandé s'il y a un vaccin contre la fièvre typhoïde.
Là, ce n'est pas dans nos pays, c'est surtout dans les pays nantis. Dans les pays d'Afrique surtout, la vaccination ne se fait pas parce que ça exige beaucoup de moyens. Et le vaccin existe, mais seulement dans les pays riches. Dans nos pays, il n'y a pas de vaccin jusque-là, parce que les vaccins sont très coûteux. Les trois aspects en rapport avec la prévention, parce qu'il dit, vous n'avez pas encore contracté la maladie, vous voulez vous prévenir. Tiens compte de ces trois aspects, je me répète, la surveillance épidémiologique, la lutte contre les périls fécales et puis la vaccination.
Docteur, dans le cas où vous avez déjà contracté la fièvre typhoïde, existe-t-il un traitement curatif?
Le deuxième aspect, c'est le curatif. Vous êtes déjà malade, vous êtes passé par l'hôpital, le médecin a diagnostiqué et a conclu à la fièvre typhoïde. Là, le traitement est basé sur deux aspects. Le premier aspect, c'est la réhydratation, donner beaucoup de liquide chez les malades. Le deuxième aspect, c'est le principal aspect, c'est le traitement à base d'antibiotiques.
N'importe quel antibiotique?
Aujourd'hui, les antibiotiques qui sont recommandés, ce sont les antibiotiques qui sont dans la famille des quinolones. Mais aussi, on utilise les phénicolées et même les ampicillines, donc les céphalosporines.
N'y a-t-il que les antibiotiques comme traitement curatif?
À part les antibiotiques qui constituent la base du traitement quand vous êtes malade, il y a aussi la prise en charge de certains symptômes qui accompagnent la maladie. Par exemple, comme c'est la fièvre typhoïde, il y a toujours la fièvre, on donne des antipyrétiques, donc des médicaments contre la fièvre. C'est un peu les deux grands aspects qui constituent la prise en charge ou le traitement de la fièvre typhoïde.
Tavarassé Kwame se demande pourquoi souvent la prise des antibiotiques adéquates ne guérit pas parfois de la fièvre typhoïde. Donc il veut parler certainement de la résistance aux antibiotiques. Pourquoi certaines personnes développent cette résistance?
Oui, la résistance se développe par rapport à l'usage abusif des antibiotiques dans certains milieux. Vous savez que surtout les pays non nantis, les gens utilisent pêle-mêle les antibiotiques. Et quand on utilise pêle-mêle les antibiotiques, les microbes commencent à s'adapter au comportement des antibiotiques et deviennent, on dirait, entre guillemets, les commensaux ou les amis des antibiotiques. Et c'est comme ça que ça résiste.
Face à cette situation, que vont faire les médecins? Comment le malade va-t-il vivre?
Dans les hôpitaux qui sont des hôpitaux assez équipés, on possède ce qu'on appelle l'antibiogramme. On a découvert les germes. Et on vous dit à quel antibiotique ce germe peut répondre ou peut être résistant. Donc les résistances sont causées par nous les prestataires et même les malades qui consomment de façon abusive les médicaments.
Un autre auditeur, Mephis Kitty, il dit qu'il a souvent, il fait souvent recours à la médecine traditionnelle pour vite guérir de la typhoïde. Est-ce que la médecine traditionnelle peut aussi guérir certaines personnes ou peut être une alternative contre la typhoïde?
Bon, en médecine, ni jamais, ni toujours. Moi, je fais de la médecine moderne. Je n'ai pas des évidences en rapport avec la médecine traditionnelle qui peut traiter la fièvre typhoïde. Donc, je ne saurais pas donner des arguments en rapport avec la médecine traditionnelle. Moi, c'est la médecine moderne. J'ai des évidences par rapport à la médecine moderne. Je confirme que si la prise en charge est à temps et le malade est bien suivi, il guérit facilement de la fièvre typhoïde. En ce qui concerne la médecine moderne, mais en rapport avec la médecine traditionnelle, je ne sais pas avancer parce que je n'ai pas d'argument.
En ce qui concerne la prévention, Daniel Lelo évoque l'implication des pouvoirs publics. Il se dit que dans les marchés, souvent en Afrique, les vendeurs et les vendeuses, ils n'ont pas un espace sain pour étaler leurs aliments. Est-ce que cela ne constitue pas un risque ou bien une cause de propagation de la fièvre typhoïde et qu'est-ce qui peut être fait au niveau des autorités publiques pour trouver une solution à ça?
Je vous ai dit que les traitements préventifs avaient comme un fondamental l'hygiène personnelle et collective. C'est entretenir correctement les toilettes, c'est entretenir correctement nos marchés, laver correctement les mains avant les repas, après avoir manipulé les aliments ou après avoir été à la toilette, couper les ongles à ras, bouillir de l'eau, tout ça. L'assainissement du milieu, en fait, c'est le soubassement.
Et ça, c'est une responsabilité qui doit incomber aux autorités politiques.
Dans certains milieux aujourd'hui, il y a l'hygiène qui est incorporée, l'hygiène des marchés, l'hygiène sanitaire partout. Ce sont des mesures que les politiques peuvent récupérer pour imposer sur les populations afin qu'ils observent pour éviter toutes ces maladies. Vous verrez dans nos pays où tout n'est pas normé, les gens vendent des aliments à l'air libre, les mouches y tombent et finalement ces mouches-là vont encore côtoyer les latrines. Voilà un peu le cercle vicieux. Donc moi je pense que si les politiques peuvent tout mettre en jeu pour appuyer les services d'hygiène qui existent déjà dans tous les marchés, ça nous avancerait beaucoup.
Si une typhoïde n'est pas bien traitée ou une typhoïde est négligée, est-ce qu'elle peut entraîner des conséquences ou des complications? Si oui, lesquelles?
La fièvre typhoïde est une maladie catastrophique si elle n'est pas très bien prise en charge. Les complications, elles sont nombreuses et de toutes ordres. Principalement, nous avons des hémorragies digestives. Les malades vont commencer à saigner, soit par la bouche, soit par les nez, soit par l'anus. Et ça, selon les statistiques, c'est à l'ordre de 10 ou 20% des cas. Et ça peut amener les malades à faire de l'anémie et même à ancrer à un choc hémorragique qui sont des complications. Et quand vous n'avez pas le sang, vous n'avez pas tous les moyens, le malade peut décéder.
On parle aussi de perforation intestinale dans le cas des fièvres typhoïdes.
Deuxième groupe de complications qui sont redoutables, ce sont des perforations intestinales. Vous savez que la fièvre typhoïde a vraiment son assise sur l'intestin grêle. Et si elle n'est pas prise en charge, elle vous amène à des perforations intestinales. Et si les médecins ne sont pas aguerris ou c'est très avancé, ce sont des tableaux de péritonite et parfois des occlusions qu'on ne saura plus contrôler et finalement c'est la mort. Troisième groupe de complications, c'est ce que nous appelons des chocs toxi-infectieux. Vous savez que quand on souffre de cette maladie, il y a des toxines qui sont déversées par des bactéries passées par là et les malades peuvent faire des infections, d'où la fièvre qui va augmenter à tout moment tout ça.
Est-ce que la fièvre typhoïde peut provoquer des problèmes pulmonaires?
Il y a aussi des problèmes pulmonaires, ça va vous surprendre, et même des problèmes cardiaques et des problèmes hépatiques. Mais aussi les comas. Les malades entrent en coma, ce qu'on appelle l'encéphalite typhique, ça existe. Nous avons aussi d'autres complications, genre insuffisance rénale, parce que je vous ai dit que les malades vont perdre beaucoup d'eau, aura de l'anémie, ça peut amener à une insuffisance rénale. Vous avez aussi des ostéites, surtout chez des drépanocytaires, qui vont faire des infections des os.
La fièvre typhoïde peut-elle présenter un danger pour la femme enceinte?
Vous avez des avortements, hein, surtout quand la femme est au premier trimestre de sa grossesse. Vous avez des troubles liés à la circulation veineuse, comme des thrombophlébites et même des méningites chez les enfants. Donc voilà, c'est beaucoup de complications ramassées si on ne prend pas en charge correctement la fièvre typhoïde. Et la complication la plus ultime, c'est ça conduit directement au décès, la mort.
Sylvain Hélo veut savoir si la fièvre typhoïde se guérit totalement lorsqu'on la traite ou bien elle laisse toujours des séquelles.
Oui, la fièvre typhoïde peut guérir totalement, mais ça peut aussi laisser des séquelles, surtout en ce qui concerne les antigènes qui sont dans le corps. Et quand vous êtes au stade des complications, les complications-là, vous pouvez rester hébété toute la journée, vous pouvez perdre votre intestin si on n'a pas très bien pris en charge la fièvre typhoïde.
Comment le malade vivra-t-il?
On peut vous faire ce que nous appelons un anus artificiel. Donc, ça peut guérir totalement, comme ça peut vous laisser des séquelles. Et les séquelles-là peuvent être au niveau sanguin. Ou vous allez vous faire des examens pour autre chose, mais on trouve dans vous que vous avez aussi quelques antigènes qui sont des antigènes de la fièvre typhoïde.
Toujours, Sylvain Lelo se dit, puisque la typhoïde peut aussi être causée par une mauvaise alimentation ou bien enfin par une mauvaise hygiène alimentaire. Est-ce qu'il y a des conseils alimentaires à donner pour un individu qui a été hospitalisé pour fièvre typhoïde?
Le conseil qu'on peut donner, c'est s'assurer de prendre des aliments qui sont assez chauds, prendre l'eau de boisson de qualité qui est bactériologiquement contrôlée ou traitée, traiter des eaux de boisson et respecter les règles générales d'hygiène en ce qui concerne la nourriture. Bien couvrir la nourriture, bien la nettoyer, nettoyer les mains avant, après les toilettes, après avoir échangé les couches des enfants. Ce sont l'ensemble des mesures qui luttent contre les périls fécales qui nous protègent et ce sont des moins efficaces qui peuvent nous protéger contre la fièvre typhoïde.
Merci. Docteur Nkeba, est-ce qu'à l'hôpital d'Idjofa où vous travaillez, vous recevez beaucoup de malades qui souffrent de la fièvre typhoïde?
Oui, de temps en temps, nous recevons des malades. Maintenant, là, je vous dis, il y a des cas de péritonite. Et régulièrement, à l'hôpital, chaque semaine, c'est un ou deux cas. Mais au niveau de la zone, il y a plusieurs cas de fièvre typhoïde parce que l'hygiène de notre alimentation n'est pas très bien assurée. Nous les recevons régulièrement, même avec des complications.
Quelle est la prévalence de la fièvre typhoïde en RDC ou en Afrique, si vous avez une idée?
La prévalence, en ce qui concerne l'épidémiologie, varie d'un millier à l'autre. C'est autour de 2 ou 3% en Afrique. Mais ce sont des prévalences qui changent d'une année à une autre.
Docteur, en résumé, quelles sont les règles que les auditeurs peuvent mettre en application, que les auditeurs peuvent suivre pour lutter contre la fièvre typhoïde?
Premièrement, c'est savoir contrôler tout ce qui entre par la bouche. Est-ce que c'est sain ou ce n'est pas sain? Deuxièmement, quand vous avez contrôlé ce qui entre par votre bouche, surtout la boisson, l'alimentation, consommez les aliments qui sont assez chauds, pas de la nourriture qui a dormi, on consomme le matin. Une bonne hygiène alimentaire, donc, en résumé, consommez de l'eau de qualité, l'eau qui est traitée.
Excusez-moi, mais si on a la nourriture de la veille, donc il faut la réchauffer avant de manger?
La réchauffer avant de manger le matin, parce qu'on n'est pas sûr de sa sécurité ou sa sécurisation pendant qu'on l'a gardé la nuit. Si vous commencez à faire des fièvres, rapidement, il faut aller consulter. Et là, le médecin peut faire le diagnostic différentiel pour voir est-ce que c'est le palu, est-ce que c'est la fièvre typhoïde, est-ce que c'est les autres maladies-là. Ça, vous gagnerez en temps, parce que quand vous êtes malade, plus tôt on vous dépiste, plus tôt on vous prendra en charge, et meilleur sera le traitement.
Au cas contraire, la fièvre typhoïde conduira à la mort, bien sûr, en l'absence de tout traitement ou en cas de négligence.
Évidemment, j'ai donné des complications. Quand vous ne prenez pas ça en charge, et que si effectivement c'est la fièvre typhoïde, si vous ne la prenez pas en charge, inéluctablement vous allez aboutir à la mort.
Merci d'avoir été notre invité pour cette deuxième partie consacrée au traitement, à la prévention et aux complications liées à la fièvre typhoïde non traitée ou négligée.
Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie.
C'était notre discussion avec le docteur Timothée Nkeba, médecin directeur à l'hôpital d'Idjofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Notre discussion portait sur le traitement et la prévention de la fièvre typhoïde. À présent, carnet de santé avec Lina Moudou.
Cette semaine dans Carnet de santé, les effets de la pollution de l'air, une vraie menace sur la santé dans le monde. Comment contribuer à garder un environnement propre et sain? Nous avons recueilli votre avis. Ensuite, des enfants au Pakistan qui souffrent de fentes labiales et palatines pourraient enfin retrouver le sourire. Et mieux comprendre le coronavirus, maladie peu connue qui frappe la Chine. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Cette semaine, nous parlerons d'abord de ce virus mystérieux qui fait la une de l'actualité et dont les victimes se retrouvent non seulement en Chine où il est apparu, mais aussi dans d'autres pays. Le coronavirus est un sujet de préoccupation majeure pour les autorités sanitaires, aussi bien en Chine qu'ailleurs dans le monde. Alors que le virus qui est apparu initialement dans la ville chinoise de Wuhan se propage dans le pays et au-delà, les responsables de la santé se démènent pour le contenir. Mais ce virus est relativement peu connu. Que savons-nous du coronavirus? Carole Pearson de la VOA apporte un éclairci.
La peur d'une propagation de ce nouveau virus a incité nombre de pays à prendre des mesures de précaution. Les passagers en provenance de Chine sont ainsi soumis à un contrôle rigoureux dans plusieurs aéroports du monde afin de détecter les symptômes d'infection tels que la fièvre et la toux. Le virus serait un nouveau type de la famille des coronavirus, du latin virus à couronne. Les coronavirus peuvent provoquer des maladies bénignes chez l'humain comme un rhume, mais aussi d'autres plus graves comme le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, et comme l'épidémie de MERS, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient.
Le MERS provenait probablement de chauves-souris, mais il est maintenant endémique chez les chameaux partout au Moyen-Orient et se propage de chameau à l'humain. Tous ces coronavirus émergents ont un hôte intermédiaire qui fait que la maladie devient transmissible à l'homme.
L'actuel virus a été repéré en décembre dernier chez des malades travaillant dans un marché de poissons à Huyan, ville chinoise de 11 millions d'habitants. Un tel virus peut se répandre via des gouttelettes dans l'air, lors d'éternuements ou de quintes de toux. Pour le chercheur Freeman, il est plus facile d'attraper un coronavirus que de contracter Ebola, qui lui se propage par les fluides corporels. Pour l'heure, impossible de dire si une couche de la population est plus vulnérable qu'une autre, mais l'âge a ses inconvénients. Dans les cas plus graves, l'infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et même la mort.
Si vous contractez une infection bactérienne secondaire, vous pouvez avoir recours aux antibiotiques. Pour les problèmes respiratoires, il y a le respirateur artificiel. Mais il n'existe aucun traitement spécifique et efficace pour le nouveau coronavirus.
Des scientifiques du monde entier l'étudient.
Ce que nous devons savoir ensuite, c'est d'où vient le virus. Et puis, nous devons voir comment il provoque la maladie. Nous pourrons alors établir un diagnostic afin de mieux savoir comment il se propage.
En attendant, il est notamment recommandé de se laver régulièrement les mains et de se couvrir la bouche et le nez avec le coude ou un mouchoir en cas de toux et d'éternuement. Enfin, si vous pensez avoir contracté le virus, il faut voir un médecin.
La pollution de l'air. Tout le monde peut en être touché. Vous pouvez être exposé à la pollution atmosphérique lorsque vous quittez votre maison et même quand vous êtes chez vous. Le monoxyde de carbone, l'ozone, le plomb et le dioxyde de soufre sont quelques polluants que l'on retrouve dans l'air que nous respirons et qui ont un effet néfaste sur la santé et l'environnement. Les pays à revenus faibles et intermédiaires souffrent des expositions les plus élevées. Selon l'OMS, la pollution cause environ 7 millions de décès prématurés chaque année en raison d'accidents vasculaires cérébraux, de cancers du poumon et d'infections respiratoires aiguës, entre autres. Mais ce problème ne reçoit pas assez d'attention sur le plan mondial. Reportage de Steve Baragona.
L'air pollué et l'eau sale, l'empoisonnement au plomb et les lieux de travail pollués ont tué plus de 8 millions de personnes en 2017. C'est plus que fumer, c'est plus que l'abus d'alcool et de drogue. La pollution est plus néfaste que les régimes malsains, les principales maladies infectieuses et la guerre. Mais elle reçoit moins d'attention, c'est ce qu'affirme un nouveau rapport de l'Alliance mondiale pour la santé et la pollution, composé de chercheurs de ministères nationaux de la santé, d'ONG et des Nations unies.
Le rapport révèle une crise sanitaire mondiale encore sous-évaluée, moins traitée et sous-financée.
Le rapport indique que la pollution provenant de sources traditionnelles comme les cuisinières produisant beaucoup de fumée et l'insalubrité est en baisse, tandis que la pollution moderne des usines, des véhicules et des produits chimiques toxiques est en augmentation.
L'eau et l'assainissement, comme je l'ai mentionné, ont eu beaucoup d'investissements. Ainsi, les décès à ce niveau sont en baisse, tandis que les autres questions en termes de pollution moderne n'ont pas reçu des ressources et une attention similaire ou équivalente.
L'Inde et la Chine ont connu le plus grand nombre de décès liés à la pollution, suivi du Nigeria, de l'Indonésie et du Pakistan. Les États-Unis sont septièmes sur la liste.
Plusieurs pays, dans presque toutes les régions du monde, figurent sur cette liste des 10 premiers. Nous sommes vraiment tous concernés, peu importe où vous êtes.
40% de décès dans le monde sont liés à la pollution. La bonne nouvelle, selon Coupa, est qu'il existe déjà des mesures qui peuvent aider à réduire ces impacts.
Nous observons une série de problèmes pays par pays qui ne sont pas uniques. Il y a des choses que les pays peuvent faire, que les communautés peuvent faire, que les villes peuvent mettre en œuvre pour réduire leur taux de maladie.
Les autorités peuvent adopter et faire appliquer des contrôles d'émissions pour les véhicules et les cheminées, exiger des équipements de protection individuelle pour les travailleurs, y compris d'autres mesures déjà en place dans de nombreux pays.
Pour en savoir plus sur la pollution atmosphérique et ce qui peut être fait, nous sommes rejoints depuis nos studios à Londres par Chris Large, associé principal du Plan d'Action Mondial, une organisation dont la vision est d'aider les gens à respirer de l'air pur. Chris Large, merci d'être avec nous. Welcome to the program. Quelles sont les principales sources de pollution atmosphérique?
La pollution de l'air est en grande partie causée par le brûlage de carburant pour nos maisons et nos véhicules, du carburant pour la cuisson, pour le chauffage ou même le brûlage de forêts à des fins agricoles. Bien sûr, il existe des variations dans ces sources d'émissions dans différents pays. Dans les pays à revenus élevés, ce sont généralement les véhicules, les maisons, les centrales électriques, les industries qui provoquent l'aggravation du problème de la pollution de l'air. Dans les pays à faible revenu, une grande partie de la pollution de l'air peut provenir de la cuisson sur le poêle à l'intérieur ou à l'extérieur des maisons.
Et donc, comment se protéger face à la pollution atmosphérique ?
Il y a une chose simple que nous devons faire pour limiter la pollution dans les pays polluants à revenus élevés comme ici au Royaume-Uni. Cela signifie moins de déplacements en voiture, privilégier le vélo, se déplacer à pied, utiliser les transports publics plus fréquemment. Et bien sûr, ces options sont disponibles pour tout le monde. Cela signifie également que les véhicules que nous conduisons doivent être plus propres et plus rapides. Les véhicules électriques sont plus propres. Nous pouvons partager les véhicules plutôt que de conduire des voitures individuelles, ce qui réduirait le nombre de voitures sur la route et limiterait la congestion. Autre chose que nous pouvons faire au Royaume-Uni, c'est de ne pas brûler du bois à l'intérieur des maisons. Le bois de cheminée peut provoquer 30 à 40 de tous les pics de pollution. C'est un problème que nous souhaitons aborder.
Chris, merci d'avoir répondu à nos questions. Chris Large est associé principal du Plan d'Action Mondial et nous a rejoint depuis Londres. Une start-up néerlandaise lutte contre la pollution de l'air avec une nouvelle génération de masques anti-pollution. Le masque est capable de détecter les particules de poussière, d'alerter les utilisateurs sur les niveaux de pollution en temps réel et éventuellement de tracer un itinéraire à vélo ou à pied, indiquant les niveaux d'air les moins pollués. La société AirBliss affirme entre autres que son masque réduit la chaleur et l'humidité, est facile pour la respiration et empêche les fuites d'air ou les douleurs de la peau grâce à un système d'étanchéité innovant. AirBliss prévoit de lancer une ligne grand public d'ici la fin de l'année. Une fente labiale ou palatine est l'une des anomalies congénitales les plus courantes chez les nouveau-nés. Dans les pays développés comme les États-Unis, les chirurgies réparatrices sont souvent effectuées au cours des deux premières années de l'enfance. Mais dans certains endroits comme le Pakistan, des milliers d'enfants atteints de malformations congénitales n'ont pas accès à des médecins pouvant effectuer cette chirurgie reconstructive. Désormais, grâce à un groupe de bénévoles, il y a de l'espoir pour de nombreux enfants.
Chaque année, environ un enfant sur 700 dans le monde naît avec une fente labiale. Ils ont non seulement des difficultés à manger et à boire, mais ils font aussi face à de grands défis psychologiques et sociaux. Une simple chirurgie plastique pourrait pourtant corriger le défaut, mais au Pakistan, de nombreuses familles ne peuvent pas se permettre la procédure. D'ailleurs, il n'y a pas assez de médecins qui la pratiquent. Heal fait partie d'un programme caritatif organisé par Aisha Bashi Trust qui amène des équipes de médecins au Pakistan pour aider à combler la pénurie dans ce domaine. Le Dr Heal est l'un de nombreux médecins du Royaume-Uni qui visite cet hôpital pakistanais dans la ville de Gurja dans le nord-est pour effectuer gratuitement des traitements liés aux fentes.
Notre émission touche à sa fin. Vos questions et vos réactions sont toujours les bienvenues. Pour ce faire, rejoignez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.
C'est la fin de Votre Santé, Votre Avenir. Nous avons parlé des complications, du traitement et de la prévention de la fièvre typhoïde avec le docteur Timothy Nkeba, médecin directeur à l'hôpital d'Idiofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Ensuite, Linor Moudou vous a présenté Carnet de Santé. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph et de Rob McLean qui étaient à la console. Nanit Talani à la présentation. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.